C'est bon. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, eh bien, vous le connaissez déjà, c'est Gilles Farley. Alors, l'histoire de micro qui est problématique, ça date d'assez longtemps. Et c'est peut-être vrai, on ne sait pas. Alors, bienvenue à chacun. Je fais partie de l'équipe pastorale depuis assez longtemps, mais je ne suis pas le plus vieux sur l'équipe pastorale. Et vraiment, je bénis Dieu que M. Alexandrien est là. Hein? On est quand même pas mal loin, là, en termes d'âge. On n'est pas dans la même décennie. Mais pas loin de la décennie, par exemple. Alors, ceux qui nous équipent, qui nous écoutent, comme Éric Lantier dit sur la toile, eh bien, bienvenue. Moi, j'aime mieux un peu dire via Internet ou en virtuel. Et j'aimerais remettre le matin, le temps de l'enseignement aux mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, quel beau chant ce matin qui nous rappelle que c'est toi qui es notre Dieu et qu'on ne méritait absolument rien. Et Seigneur, c'est un privilège, comme tu sais, d'étudier ta parole et de voir ce que tu nous as à nous enseigner ce matin, soit avec moi, soit avec ma bouche, mais soit aussi avec les cœurs de chacun. Et je sais que c'est ton esprit qui permet que les cœurs soient touchés par ta parole, par ton enseignement. Je sais aussi qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir faire obstacle au travail de ton esprit, que ce soit des souffrances de toutes sortes. Seigneur Dieu, viens libérer l'esprit et permettre que chacune des personnes ici ce matin puisse écouter et être bénie par toi. Au nom de ton Fils. Amen. Alors, une chose qui me manque, c'est ça. Alors, ce matin, j'écoutais notre frère Louis Jacob. C'était excellent. On dirait qu'on s'était parlé cette semaine pour le choix des chants. Mais on ne s'est pas parlé, en tout cas pas directement. Mais Dieu a certainement dirigé. Je pense que le deuxième chant, je me disais, mon ami, quel chant qui nous rappelle la grandeur de Dieu et comment il est présent et il intervient dans la vie de chaque jour. Vous savez, il y a un frère qui était un ami aussi, son nom est Jacques Grenier. Il était serviteur en formation ici, pasteur à Mont-Laurier pendant plusieurs années, puis il a été impliqué au niveau du ministère aujourd'hui, l'Espoir, et de Sembec. Et le temps qu'il était impliqué à Sembec, notre frère s'occupait du coaching. Et dans les années 2006 jusqu'à 2011 à peu près, je faisais partie de la cohorte. Il y en avait d'autres, Alexandre, puis il y avait Sylvain Plouffe aussi qui faisait partie de la cohorte. Et devant les travaux qu'on avait à faire, devant les lectures qu'on devait faire et les gaps, hein, le développement de compétences, les DFC, qui était la démarche pour la formation du cœur, qu'on appelait plutôt la déformation du cœur. Eh bien, notre frère, il nous a dit, suite à entendre plusieurs critiques, il dit, « Vous êtes en formation. » Ne faites pas ce qu'on vous demande pour faire plaisir à la maîtresse. Faites-le par conviction. Qu'est-ce que ça donne? D'être capable d'avoir des hautes notes, de dire, ah, tiens, garde, j'ai un tel degré, si ce n'est pas par conviction personnelle. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu? Oui. Oui, oui. On connaît la réponse que la maîtresse veut entendre, n'est-ce pas? Et chacun de vous aurait pu dire, oui, on peut faire confiance à Dieu. Mais vraiment, c'est quand l'épreuve vient qu'on voit si on a cette conviction qu'on peut faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, notre frère Jacques est atteint de la maladie Alzheimer. Et ça fait proche une dizaine d'années. Et au début du diagnostic de sa maladie, Jacques est venu chez nous. Puis, il nous a annoncé le diagnostic. Puis, il nous a dit, vous savez, c'est pas le choix que j'aurais fait. Il dit, j'aurais désiré choisir une autre maladie. Mais, il dit, c'est le choix de Dieu et je l'accepte. Il sait ce qu'il veut faire avec ça et je suis prête à accepter ça, suivre les conséquences de cette maladie. Aujourd'hui, je vais visiter Jacques assez régulièrement et Jacques est capable de me reconnaître. Mais il y a beaucoup de choses qu'il n'est plus capable de faire. Beaucoup de choses qu'il n'est plus capable de faire. Mais il y a d'autres genres de situations qui sont aussi des épreuves. Peut-être la pression que je subis des autres de mon âge dans la société, que ce soit à l'école ou au travail, pour suivre un peu le modèle de la société. Peut-être que c'est la perte d'emploi. Un frère partageait au conseil qu'il connaissait quelqu'un qui venait de perdre son emploi. Peut-être que c'est une grossesse non désirée, une condition physique qui est souffrante, qui est pénible, qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Peut-être un conflit au travail, peut-être une difficulté au niveau du couple. Je trouve ça pénible. Je trouve que... et ça m'attriste. Hein? Peut-être c'est un conjoint qui vit maladie. On s'est marié, tout le monde était en santé et 15 ans plus tard, on découvre que la personne vraiment a un comportement, mais qui est animé par une certaine maladie mentale. Peut-être c'est l'infertilité dans le couple. Les genres d'épreuves ne manquent pas, n'est-ce pas? Vous pourriez ajouter à la liste. Cet été, en juillet, il y a eu un drame à l'église du Plateau. Et notre frère André Constant, qui est le pasteur de l'église du Plateau, nous a envoyé un courriel. Et je vais vous lire une partie de son courriel. Et André dit, « Comme plusieurs l'ont appris au début de la semaine, notre gendre, Joshua Stauffer, époux de notre fille Marie-Michelle, est décédé subitement dimanche dernier dans la nuit. D'une rupture d'anévrisme à l'aorte. Il venait de célébrer ses 27 ans samedi dernier. Et était très enthousiaste dans l'attente de leur premier enfant prévu pour la mi-août. Imaginez. Venait de célébrer ses 27 ans, meurt subitement à côté de son épouse, elle ne s'en est pas aperçue. Et ils attendaient un premier enfant à la mi-août. Puis lui est mort à la fin juillet. Est-ce que je mets ma confiance en Dieu dans ces situations ou est-ce que je me mets en colère contre Dieu, en rébellion? Est-ce que je suis jaloux de ceux qui ne vivent pas les mêmes situations que moi? On voit dans les psaumes, plusieurs fois, le psalmiste dire, « Comment ça se fait, le méchant est béni? » Et moi, je ne le suis pas. Est-ce que c'est comme ça que je réagis jusqu'au point d'être rempli d'amertume et abandonner ma foi? Et peut-être abandonner ma foi en abandonnant l'Église, en abandonnant la relation que j'ai avec les frères et sœurs et en allant vers d'autres contexte. Eh bien, c'est dans des situations d'épreuve comme celle-là qu'on voit si on met notre confiance en Dieu. Ou bien, si je dis oui, j'ai confiance en Dieu pour faire plaisir à la maîtresse. Pour Abraham, sa moyenne était passable. Après des manquements, et plus qu'un, il était prêt à offrir Isaac, son seul et unique fils, en sacrifice pour obéir à Dieu. Et plus tard, on voit qu'Abraham s'est dit, « Dieu est capable de ressusciter mon fils Isaac. » Eh bien, il n'y a pas eu à ressusciter Isaac parce que Dieu a pourvu un sacrifice. Pour Daniel, il était résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Je pas si c'est parce que le roi buvait des vins de mauvaise qualité. Je pense que c'est parce que le roi buvait du vin, point. Mais quand même. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ou bien, Daniel était prêt à être jeté dans la fosse au lion lorsqu'il se retira dans sa chambre pour prier son Dieu. Lorsque Darius est trompé et signe un décret que personne doit prier un autre Dieu que lui, et il se mettait égal à Dieu. Immédiatement, c'est écrit que Daniel alla dans sa chambre et pria comme il fit d'habitude. La fenêtre est ouverte. Daniel ne voulait pas se cacher. Et on connaît l'histoire. Daniel a mis sa confiance en Dieu. Ou bien, je dirais, David a aussi une moyenne au bâton assez passable. Ah! Il met sa confiance en Dieu pour combattre le géant Goliath, n'est-ce pas? Ou bien, quand Saül est devant lui, Saül le pourchasse, veut le tuer. Et là, il a une chance de l'égorger. Puis il dit, non, je ne mettrai pas la main sur le roi que Dieu a mis en place. Ça aurait résolu bien des inquiétudes. Ou bien, est-ce que Paul met sa confiance en Dieu quand il continue, persiste de prêcher l'Évangile, même devant plusieurs châtiments qui, plusieurs fois, auraient pu le mener à la mort? Dans ces situations, on peut douter de la providence de Dieu et sa souveraineté. Comme le peuple de Dieu, on peut se demander où est Dieu. Combien de fois dans l'Ancien Testament on peut lire, et moi je suis en train de faire Ésaïe en étude, et à plusieurs reprises dans le seul livre d'Ésaïe, le peuple abandonne Dieu. Et vont vers d'autres dieux. Il semble que les peuples qui n'appartiennent pas à Dieu sont bénis plus qu'eux. Alors ils se disent, moi, j'abandonne mon Dieu. Je vais vers d'autres dieux. Eh bien, est-ce qu'on se demande les mêmes choses devant les épreuves? Eh bien, parfois, oui. Et chacun de nous, on peut réagir comme le peuple de Dieu. Pour certains, c'est 30 secondes. Pour d'autres, ça peut durer une heure. Mais des fois, ça peut durer des semaines. Et peut-être que vous êtes là. Peut-être que même vous êtes après quelques mois, même des années, où vous avez vécu quelque chose et vous avez dit, « J'accepte pas cela. Je ne crois pas à la fidélité de Dieu. » Maintenant, qu'est-ce que la providence de Dieu? Qu'est-ce que la souveraineté de Dieu? Et la souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu à régner et gouverner sa création. C'est lui qui a créé l'univers. Tout lui appartient. Alors, la souveraineté de Dieu, selon Wayne Grudem, dans son livre « Théologie systématique », eh bien, c'est l'autorité que Dieu a de régner et de gouverner sur sa création. Et la providence de Dieu, eh bien, c'est que Dieu est continuellement à l'œuvre dans sa création. Il n'est pas en vacances, il n'est pas indifférent, il n'est pas endormi. Non, il est continuellement à l'œuvre dans sa création. Donc, la providence de Dieu, c'est la façon qu'il exerce sa souveraineté. Est-ce que la providence de Dieu, donc, elle est constamment devant nous, dans nos vies? Et on va voir dans l'histoire d'un jeune homme comment on peut saisir, comprendre et s'accaparer cette vérité que Dieu est souverain et qu'il exerce sa souveraineté dans sa création, dans ma vie. Regardons la vie de Joseph, n'est-ce pas? Alors, on va peut-être dans les Dans le livre de Genèse, je n'irai pas directement, mais vous pouvez aller, vous avez votre parole, votre Bible, soit virtuelle ou en papier, et on va être entre Genèse 37 et Genèse 50, et je vais venir appuyer avec quelques autres versets. Alors, on voit déjà au chapitre 37 que Joseph était un fils préféré. Mais un fils, peut-être que les fils préférés gâtés réagissent comme ça, mais c'était un enfant qui rapportait tout ce que ses frères faisaient. J'ai encore des enfants. Ils sont à l'âge où ils ne rapportent plus. Mais ils ont été à un âge où, « Hey, papa, as-tu vu? » Et Joseph était ce genre d'enfant-là. Peut-être qu'il pensait qu'il avait plus l'oreille de son père que les autres. Mais ce qui arrive quand quelqu'un rapporte ce que ses frères ou ses sœurs font, eh bien, ça irrite les autres. Alors, les autres déjà étaient irrités. Ensuite, son père agissait pour montrer, pour démontrer l'évidence que mon Joseph, c'était mon fils préféré. Il lui a acheté une belle tunique devant ses frères, et ça n'a pas pris de temps pour les frères d'être convaincus que leur père avait un fils préféré et que ce fils préféré-là s'appelait Joseph. Joseph a deux songes, et dans les deux songes, ses frères sont à genoux devant lui et même son père. Alors, ses frères lui disent, « Coudon, est-ce que tu vas régner sur nous? Non seulement, on ne t'aime pas trop, mais là, en plus, il va falloir qu'on se soumette à toi. » Même son père le réprimande. Et vers 17 ans, ils arrivent au comble de leur haine envers leur frère et ils ont l'occasion de régler son compte. Ils le vendent un groupe qui s'en venait, un groupe de Madianites, ils le vendent comme esclave. Ils avaient prévu le tuer, mais là, ils décident de le vendre comme esclave, faire quelques sous avec cela, non seulement régler son compte, mais s'enrichir. Et on voit que Joseph est envoyé comme esclave et il arrive dans l'Égypte un petit peu plus tard. Quel élément faisait partie du plan de Dieu? Est-ce que la préférence d'Israël pour lui faisait partie du plan de Dieu? Est-ce que les songes de Joseph étaient des songes que Dieu lui avait donnés? Est-ce que le mépris de ses frères faisait partie du plan de Dieu? Est-ce que la vente comme esclave aux Midianites? Est-ce que le voyage en Égypte faisait partie du plan de Dieu? Est-ce que la vente à un officier du Pharaon, chef des gardes, faisait partie du plan de Dieu? Eh bien, dans le chapitre 39, plusieurs fois, Moïse va mentionner que Dieu intervient dans la vie de Joseph. Donc, au verset 3, c'est dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui, Potiphar, à qui on a vendu Joseph. Eh bien, il reconnaît que l'Éternel est avec lui. Vous savez, par le temps qu'on arrive à cette situation-là, si Joseph avait 17 ans quand il a été vendu aux Madianites, ça prend quand même quelques années d'apprendre la langue des Égyptiens. Caramon, est-ce que c'est vrai? Ça prend quelques années d'apprendre la langue d'un autre pays. Hein? Ensuite, il faut apprendre la culture pour s'intégrer, les façons de faire. Alors, plusieurs pensent que ça a peut-être pris jusqu'à 10 ans pour Joseph d'être au point où son maître, Potiphar, peut l'utiliser. Donc, il avait peut-être entre 25 et 30 ans à ce point-ci. Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, Potiphar, et tout ce que Joseph touchait. Dieu permet à Joseph de demeurer intègre devant Potiphar et pur devant les avances de l'épouse de Potiphar. On sait que Joseph a été encouragée par l'épouse de Potiphar à avoir des relations sexuelles avec lui, mais Joseph a dit non. Il est demeuré pur et intègre. On peut voir la main de Dieu qui permet à Joseph de garder sa foi dans le Dieu de ses ancêtres. Il a quand même laissé la présence de son père vers 17 ans. Et depuis, Joseph n'avait rien pour alimenter sa connaissance de Dieu. Le Pentateuque n'était pas écrit encore. Moïse va venir 400 ans plus tard. Et on croit, on attribue à Moïse le Pentateuque, donc Genèse. Donc, il n'avait rien pour alimenter sa foi autre que ce que son père lui avait enseigné. Et on voit Joseph, un fils, qui a bien compris qui était son Dieu et qui avait ce désir d'être agréable à Dieu. Eh bien, après avoir été séparé de quelqu'un dans son entourage qui pouvait l'encourager, Dieu a permis à Joseph de garder la foi. C'est une exhortation pour moi en tant que père, mais pour tous les parents ici, de continuer à enseigner la parole de Dieu aux enfants et de démontrer par votre vie ce que vous connaissez de Dieu et votre désir de lui être agréable. Il y a plusieurs versets qui parlent de la récompense de notre fidélité à Dieu. Il y a même des évangiles de prospérité qui, je crois, est un faux évangile de A à Z. Mais quand même, Dieu bénit son enfant. C'est vrai. Et Dieu va lui faire justice. C'est vrai, ça aussi. Mais comme on veut voir dans la vie de Joseph, ce n'est pas au moment où Gilles voudrait qu'il intervienne, où Gilles voudrait qu'il soit béni. C'est dans le temps de Dieu. La fidélité de Joseph, sa foi en Dieu, son refus de pécher contre Dieu et contre son maître n'est pas récompensé par la libération de l'esclavage, n'est-ce pas? Lorsque l'épouse l'accuse fautement, il est envoyé en prison. Mais ce n'est pas, je peux vous dire que dans notre vie, dans des témoignages qu'on peut lire, ce n'est pas un cas isolé où Dieu va accomplir son plan avec quelqu'un qui est en prison, qui est dans une situation aussi difficile. Il y a des témoignages de prisonniers qui ont dit qu'être mis en prison leur avait sauvé la vie. Ils étaient mêlés à des groupes de violence, des groupes de dépendance, que s'ils n'avaient pas été mis en prison, probablement qu'ils auraient perdu leur vie. Mais en prison, ils ont échappé à cela. Et s'ils sont mis en prison assez longtemps, eh bien, leur cercle d'amis va disparaître, va changer. Il y en a même, et j'en connais, qui sont venus au Seigneur pendant qu'il était en prison. Donc, la prison peut être un temps difficile, mais Dieu peut bénir quand même. Le texte qu'on voit dans chapitre 39 ne laisse aucun doute que Dieu est intervenu d'une façon positive dans la vie de Joseph. Et on voit dans les versets 19 à 23, il est emprisonné, mais pas dans n'importe quelle prison, dans une prison où le Pharaon envoyait ceux qui le servaient. Aussi, normalement, quand quelqu'un était accusé d'un crime comme celui de Joseph, ce n'est pas en prison qu'on l'envoyait. Il était mis à mort. Mais Joseph est envoyé en prison. Donc, Dieu avance son plan de sauver son peuple et en faire une nation. L'Éternel est avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Dieu était avec lui et donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Chapitre 39, verset 23. Maintenant, Joseph a eu pleinement le temps de méditer sur les mystères de la providence de Dieu. Et il en a trouvé consolation. Il va dire, « Moi, je ne suis pas Dieu pour me venger de ce que vous avez fait, vous, mes frères. » Il reconnaît qu'ils ont fait le mal, mais il dit, « Ce n'est pas à moi de vous juger et de vous imposer une conséquence. » Il ne dit pas que Dieu a été surpris dans cette affaire, mais simplement que Dieu a agi pour faire le bien. Et on peut lire l'échange de Joseph avec ses frères ici au chapitre 45, où il dit, « Approchez-vous de moi. » Et les frères s'approchèrent de lui. Et quand tu es devant le premier ministre de l'Égypte, puis ils te disent, « Mets-toi à genoux, lève-toi, approche-toi, et que tu aies déjà vécu des choses difficiles devant lui dans une première visite, tu t'approches. » Mais là, une révélation. Et Joseph leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Vous imaginez la réaction des gars? Maintenant, le verset 25 est toute une révélation. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Il y a juste un S à vous, par exemple. Alors, il n'avait pas compris jusqu'à ce point-là pourquoi il subissait tout cela. Il ne savait pas. Mais peut-être une trentaine d'années, ils sont venus quand il y a eu la famine. Il y a eu 7 années de vaches grasses, 7 années de famine. C'est probablement la 3e, la 4e année du terme de famine que les frères sont venus ayant manqué de nourriture. Alors, à ce point-ci, il y avait probablement 35 ans. De 17 à 35 ans, il subit toutes sortes d'atrocités que moi, j'espère, je ne vivrai jamais. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas où ça s'en va. Et là, devant ses frères, il vient de réaliser que Dieu avait un plan pour sauver son peuple. Il le reconnaît. Il y avait toute une réflexion, toute une méditation. Joseph accepte et décide même de faire du bien à ses frères parce qu'il croyait que les événements qu'il a subis étaient sous le contrôle de Dieu. Joseph croit que Dieu est souverain et que son plan est parfait. L'histoire de Joseph n'est pas principalement l'histoire d'un homme d'un caractère exemplaire, mais une partie de l'histoire d'un Dieu qui, dans sa bonté, délivre son peuple de ses péchés par la mort de son Fils, Jésus-Christ, à la croix. Par sa mort, Christ obtient le pardon des péchés de ceux qui croient en lui. L'histoire de Joseph fait partie de l'histoire de la rédemption de Dieu. Il y a comme un fil conducteur du début jusqu'à la fin. Dieu avait planifié de faire d'un petit groupe de personnes de 70, quand ils sont arrivés en Égypte, et quand ils sont partis d'en faire une nation de plus, il y avait 2 millions d'hommes. Donc, il y a les femmes, il y a les enfants. Donc, il a pris 70, et c'est comme ça qu'il allait se faire une nation. 400 ans plus tard, ces 70 personnes étaient rendues maintenant une nation. Et l'histoire de Joseph fait partie de cette histoire. Et est-ce qu'il a planifié cela? Alors, qu'est-ce qui est arrivé, là, Michael? Je l'ai fermé. Ah, bien, je n'y ai pas touché. Alors, vous voyez, Dieu est présent. et travaille dans la vie de Gilles. Eh bien, par Joseph, Dieu fait avancer son plan. Et Joseph a compris le plan de Dieu pour sa vie. Pas tout de suite, mais après avoir vécu les situations difficiles, comme j'ai mentionné, Joseph a gardé la foi. Il a fait confiance à Dieu. Alors, c'est bien. Maintenant, il y a un autre exemple qui est un exemple excellent aussi. Un homme qui a fait confiance à Dieu et qui l'a obéi jusqu'à la fin. Et comme de raison, c'est l'histoire de Jésus. Et le verset, je dirais, qui le démontre d'une façon la plus claire, c'est Philippiens 2, 7 à 8. Mais ce n'est pas le seul passage où on peut lire que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Devant de grandes épreuves, Jésus a fait confiance à Dieu dans son obéissance qui l'a conduit à la mort. Jacques nous rappelle les fruits de persévérer dans les épreuves dans Jacques chapitre 1, verset 2, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, après avoir rappelé l'espoir, l'héritage que nous avons, rappelle aux chrétiens de son époque que la souffrance va venir. Elle va être présente. Et il dit au verset 6, « C'est là cet héritage, cet espoir qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Mercredi soir, on a étudié une partie d'Ésaïe, c'était une partie où on parle des souffrances du serviteur d'une façon assez brève. Et on voit le serviteur tout de suite se réjouir que Dieu va venir à son aide, qu'il va avoir la paix, la joie. Et je vais raconter ce que notre frère Caramon nous a partagé. Lorsqu'il est venu au Seigneur, c'était dans un pays musulman. Il a vécu la persécution, lui et sa famille, de toutes sortes. Là, ça peut être l'isolement de tous ceux qui étaient autour de lui. Ça peut être une perte d'emploi. Certainement, le rejet de la communauté, violence et même de sa famille proche. L'acharnement des autorités gouvernementales. Mais malgré cela, il nous a partagé un secret. Pendant qu'il travaillait dans le champ, lorsqu'il réfléchissait à différents passages de la parole de Dieu et qu'il était touché de l'amour de Dieu, de la grandeur de son pardon, il se mettait à danser. Alors, je m'attends qu'un jour, on va pouvoir voir Caramon danser parmi nous. Je n'ai pas vu ça encore. Mais quand Caramon va danser de joie, moi, même si je ne suis pas un danseur, vous n'avez qu'à demander à Suzanne, et je vous encourage, vous aussi, de danser devant le salut que nous avons en Jésus-Christ. Mais j'ai quand même hâte de voir Caramon danser devant nous. Joseph, comme chacun des personnages mentionnés plus haut, a été animé par la sagesse de Dieu lorsqu'il était dans le creux de l'épreuve. Et je dirais, il y avait une conviction qu'il peut faire confiance à Dieu. Dieu est là. Il est au courant de sa situation. Il avait un intense désir de lui obéir, malgré l'épreuve qu'il vivait. Alors, devant l'épreuve, nous avons des choix à faire, des décisions à prendre. J'ai pensé passer à travers les choix. Premièrement, les décisions à rejeter, le chemin à éviter. c'est de dire, Dieu m'a abandonné. De dire, je ne peux pas faire confiance à Dieu. Et ensuite, de se convaincre de mensonges que notre société nous communique. L'important, c'est que je sois heureux, que je sois dans le confort, que je ne sois pas soumis à la souffrance, que je sois en sécurité, que je sois rempli de toutes sortes de richesses, que j'aie du succès aux yeux des hommes. Ça, c'est mon but ultime. Abraham pensait à préserver sa vie lorsqu'il demande à sa femme Saraï, à son entrée en Égypte, de dire au dirigeant de Pharaon qu'elle était sa sœur, une demi-vérité. David pensait à son plaisir immédiat, sensuel, à son statut de roi, lorsqu'il décide, lorsqu'il se permet d'aller envoyer chercher Bathsheba, et ensuite de faire tuer son mari. En somme, ne pas manifester la foi en Dieu et ne pas croire à ses paroles, ce sont des chemins que vous ne devez pas prendre. Ce sont des décisions que vous devez rejeter. Par contre, quand vous êtes dans l'épreuve, quand vous êtes devant à prendre des décisions, qu'est-ce que je dois faire? Regardons l'autre côté, les décisions que je vous encourage à prendre, les réflexions que je vous encourage à avoir, le chemin à suivre. Et l'histoire de Joseph nous apprend beaucoup sur la sagesse de Dieu. Dans sa vie, dans ses décisions, on peut voir ce qui l'anime. Joseph se dit, « Moi, je ne comprends pas rien ce qui arrive. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais j'ai la conviction que Dieu est fidèle, qu'il peut et va accomplir ses promesses et prendre soin de moi. » Deuxièmement, « Moi, je ne veux pas pécher contre Dieu. » On continue tous de pécher, mais quand on est conscient et quand c'est une direction pour une bonne partie du reste de notre vie, Joseph voulait obéir à son Dieu. Alors, je ne veux pas pécher contre Dieu, même si cela m'amène à perdre mon emploi, à aller en prison. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu, dit-il dans Genèse 39, les versets 9. Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9, « Nous nous efforçons pour être agréables à Dieu. » Dans 3 Jean 3, « Je cherche à faire le bien. » Bien-aimé, dit-il dans 3 Jean, « n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Et parfois, ce n'est pas clair. Parfois, on se demande, « Seigneur, dirige-moi, qu'est-ce qui est bien de faire dans telle ou telle situation? » Bien, remets ça à Dieu. Mais que ton cœur désire faire le bien et rejette le mal. Et ensuite, considère-toi privilégié dans les épreuves que tu vis. On a vu comment Joseph a reconnu que par ses souffrances, en étant vendu comme esclave, en étant chez Potiphar, en étant en prison et ensuite chez Pharaon, il était quand même loin de ses frères, loin de son père, loin de la terre promise. C'était quand même difficile. Et on voit que Joseph avait encore à cœur de retourner dans la terre promise. Mais Joseph reconnaît que ces souffrances-là qu'il avait, c'est parce qu'il faisait partie du plan de Dieu. C'était pour sauver ses frères, son père, et former une nation. Alors, quand tu vis une difficulté, une épreuve, que pense, non, Dieu a un plan que tu ne comprends pas. Il ne te demande pas de le saisir. J'ai encore la difficulté à comprendre souveraineté de Dieu et mon choix en tant qu'être humain. J'ai encore la difficulté à comprendre cela. Mais je dois reconnaître les passages qui sont là, qui me disent, Dieu est souverain. Et Gilles, tu es responsable de tes actes. Alors, que je me considère dans l'épreuve privilégiée d'être utilisé par Dieu pour accomplir son plan. Et c'est ce qu'il dit dans Genèse 45, verset 7, n'est-ce pas? Paul, quand il fait face à la souffrance, il est avec Silas en prison, il chante. On chante qu'on est dans la joie. Il sait qu'il est en train d'accomplir le plan de Dieu. On voit dans Philippiens, chapitre 1, verset 9, Paul qui dit, « Il vous a été fait la grâce, non pas de croire en lui, mais de souffrir pour lui. » Voyons maintenant certains exemples. Et comment on peut venir qu'à prendre une décision dans ces différents exemples-là? Il y en a bien plus que ça où on pourrait les appliquer, mais je voulais voir comment est-ce que la providence de Dieu, mettre ma confiance en lui, l'obéissance, va venir intervenir dans ces situations-là. Prenons un adolescent ou un jeune adulte célibataire, une femme ou un homme. Et je sais, ayant été adolescent, que c'est à l'adolescence que le jeune garçon et la jeune fille remarquent que ce n'est pas tous des garçons autour de lui, que ce n'est pas toutes des filles, mais regarde, c'est un petit garçon, je vois qu'il y a des filles, qu'il y a des garçons. Et c'est normal d'arriver à cela et d'avoir un désir de développer des relations avec l'autre sexe. Et je dirais, le célibataire qui n'a pas encore trouvé une épouse ou la femme célibataire qui n'a pas encore trouvé un mari, si elle écoute, et si l'adolescent écoute notre société, eh bien, notre société ne se gêne pas pour nous vendre l'idée que le bonheur se trouve dans la sexualité, dans les plaisirs sexuels, dans l'immoralité, et qu'il n'y a rien mal là. Eh bien, la sagesse de Dieu te demande de demeurer pur. C'est un commandement de Dieu, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Alors ça demande, si tu veux demeurer pur, ça demande que tu évites des situations où tu pourrais tomber. Que tu veilles sur tes yeux. Job a fait un pacte concernant ses yeux. Que tu veilles sur tes yeux, mais que tu veilles aussi sur avec qui tu te tiens, avec tes amis. N'est-ce pas? Alors, jeunes ados, il y en a ici, des jeunes adultes célibataires. Si on suit le modèle de Joseph, eh bien, aussi difficile que ça peut être, Dieu est présent dans vos vies. Il nous a donné un enseignement clair de rester pur. Faites confiance à lui. Faites confiance que c'est la bonne action, même si c'est contre-courant de notre société. Il y a peut-être que tu es marié depuis des années. Moi, je suis marié depuis 46 ans déjà. Et peut-être que tu te sens malheureux, déçu de ton conjoint. Vous savez, parfois, ce qu'on trouvait vraiment bien quand on fréquentait notre conjoint ou notre conjointe, parce que c'était différent, après un an ou deux de mariage, on a de la difficulté à endurer les mêmes choses. Ça vous arrive-tu, ça? Il y en a qui disent « Ah oui ». Et certainement que si vous parliez avec Suzanne ici présente, elle vous dirait « C'est pas vrai, Gilles, il est exactement comme j'ai pensé qu'il était. » Puis là, elle se lèverait et elle dirait « Hey, une minute là. » Parce que elle a déjà pensé, elle aussi, pourquoi est-ce que j'ai marié Gilles Farley? Hein? N'est-ce pas? Alors, il y a des temps difficiles, des temps où on pensait que c'était fantastique que notre mari soit aussi spontané que ça. Quand moi, je suis très, très organisé et que je planifie mes sorties deux semaines à l'avance, Mais après que je suis marié depuis quelque temps et que j'ai tout planifié, qu'est-ce que je faisais pour ma fin de semaine, qu'il vienne avec l'idée d'aller à Los Angeles sans m'avertir. Hey, une minute, là, ça me dérange. Et je vois cela comme étant difficile à vivre. Quoi faire? Eh bien, une décision sage devant Dieu t'amène à demeurer dans cette relation. Dieu connaît ta situation, il va t'appuyer dans tes circonstances difficiles. Faire confiance à Dieu va te conduire à faire ce qui est agréable à Dieu. En veillant sur tes mots, en examinant tes actions, est-ce que mes actions ont été de la méchanceté envers mon conjoint? Et si oui, confesse, demande pardon. En cherchant à faire du bien à mon conjoint, vous entendez encore, donc, je n'ai pas mis mute, n'est-ce pas? En priant pour lui, il y a eu un film qui s'appelait « The War Room » et on voit une chrétienne d'un certain âge raconter à une autre chrétienne plus jeune comment elle avait prié pour son mari, pour les difficultés de son mariage. Quel bon exemple! Et on voit la jeune femme débuter cela aussi. Mais ça peut être la war room avec un homme à l'intérieur de la place. Ensuite, en étant honnête, en communiquant ce que tu ressens au conjoint avec douceur, transparence, sans accusation, et parfois demander de l'aide. Dieu met des gens dans son Église, dans son entourage, qui peuvent te conseiller. Joseph n'a pas hésité à demander à l'échanson puis au panetier, « Hey, pense à moi quand tu vas être remis en fonction. » En même temps, il se peut qu'une décision sage devant Dieu exige un temps de séparation pour des raisons de santé physique, mentale. Communique ce que tu vis à ton conjoint. Consulte d'autres personnes chrétiennes avant de prendre une telle décision. Et s'il y a séparation, la Bible nous dit que ce soit pour un temps et d'un commun accord, si c'est possible, comme de raison, parce que parfois, le conjoint ne reconnaît pas ce qu'il fait. Un conjoint qui est violent physiquement ne reconnaîtra pas nécessairement qu'il a un problème. Il va dire qu'il est provoqué, mais ce n'est pas vrai. La société dit que c'est un crime. Et même la violence au niveau des mots, ça peut être la violence conjugale. Alors parfois, ce n'est pas possible d'avoir un commun accord pour la séparation. Mais la Bible nous dit que les deux vaquent à la prière. Même si ce n'est pas un commun accord, que l'homme et la femme aillent devant Dieu, demandent la sagesse à Dieu, et que leur prière inclut la demande d'être capable de revenir ensemble, de retour ensemble. C'est un sujet qui est présent au conseil plusieurs temps. En conseil, depuis, je dirais, dans la dernière année, sont pris à prier pour les couples qui souffrent. Les couples ne se séparent pas parce qu'ils sont dans la joie. Rarement. C'est parce qu'ils souffrent. Et un autre exemple, après tout, le gouvernement m'a volassé. Et ça, c'est concernant ne pas payer l'impôt que je dois payer. Et j'ai entendu cette raison-là. C'est le 250 millions gaspillés pour les commandites là, au temps de Jean Chrétien, ça venait de tes poches, de mes poches. C'était de l'argent des contribuables. Quand j'entends la commission Charbonneau et les ingénieurs qui gonflent la facture sous toutes sortes de raisons, que je vois les 10-15% que les politiciens en place mettent dans leurs poches, ça vient de mon portefeuille. Ça vient du tien. Et ça peut m'amener à dire, bien, eux me font le mal. Moi, je vais cacher les revenus que je gagne. Et je vais travailler au noir. Mais on ne doit pas remettre le mal pour le mal. Et devant des situations où peut-être tu as de la difficulté à rencontrer les deux bouts. Cherche à faire ce qui est agréable à Dieu. Et Dieu va bénir. Dieu va bénir. Il va prendre soin de vous. Cette histoire de Joseph nous enseigne beaucoup sur la providence de Dieu. Dieu est présent dans ma vie, dans votre vie. Il désire mon bien, il désire votre bien et il intervient. Le message qui revient dans l'histoire de Joseph, c'est Dieu est avec Joseph et le bénit et bénit ses maîtres. Comme plusieurs autres ici, j'ai accompagné des personnes qui vivaient des circonstances difficiles. L'histoire de Joseph me donne la confiance pour leur dire Dieu est avec eux et de les exhorter à demeurer fidèles en Dieu par l'obéissance à sa parole. Dans le courriel que la famille Constant nous a envoyé au mois de juillet, il y a un autre paragraphe que j'aimerais vous lire. Et André dit ceci. Vous comprendrez que nous sommes sous le choc, dans les pleurs et l'incompréhension. Toutefois, nous avons choisi non pas de comprendre, mais de nous confier en Dieu et de trouver en lui notre consolation par son Fils et par le divin consolateur. Nous passons ces jours et cette épreuve avec Marie-Michel, avec la famille de Josh, qui est chez nous, ainsi que mes grands-enfants, entourés de l'amour, le soutien et les prières de notre famille spirituelle, non seulement locale, mais de partout. Joseph se retrouve en Égypte, loin de la terre promise. Il est un esclave loin de son père, en prison, sous une fausse accusation due à son intégrité et à sa préoccupation de demeurer pur. Mais Joseph n'est pas hors de la portée de Dieu. Il est réconfortant de savoir que nous servons un Dieu qui est là. Il n'est pas absent. Il n'est pas silencieux. Parfois, le bien conduit à une situation qui est encore pire. Il y a bien des passages qui racontent les bienfaits de travailler fort, d'être obéissant à Dieu, intègre, et que Dieu va nous récompenser. Et comme je l'ai dit tantôt, ses promesses sont vraies. Mais parfois, c'est l'expérience de Joseph qu'on va vivre. Une obéissance peut conduire à des souffrances. Dire la vérité peut nous conduire à une perte d'emploi. Le whistleblower au ministère de l'Agriculture du Québec, l'agronome Louis Robert, un expert sur les semences, est congédié pour avoir dénoncé une trop grande influence du secteur privé dans une étude sur l'utilisation des pesticides. Il a perdu son emploi. Il a été réintégré récemment. Peut-être suivre les règles peut nous donner une quatrième place et ne pas monter sur le podium aux Olympiques. Si je refuse de prendre des substances qui peuvent améliorer ma performance, il y en a plusieurs qui ont reçu des médailles. Ils n'ont pas été attrapés, mais c'était des médailles acquises malhonnêtement. Parfois, ne pas suivre les avances d'une femme adultère peut nous envoyer en prison comme David. Mais le passage de Romains 8, 28, un petit peu avant celui que Louis-Jacob a lu, nous donne l'espoir de justice et de la providence de Dieu. Je vais le lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Nous devons nous rappeler que Dieu accomplit son plan. Avec Joseph, il voulait sauver le peuple choisi et faire de ce groupe de 70 personnes une nation de plus de 2 millions. Et de cette nation viendrait un peuple à qui Dieu a confié la parole de Dieu, selon Romains 3, et par laquelle le Messie devait venir sur cette terre, Romains chapitre 9. Il est possible que des circonstances difficiles deviennent encore plus difficiles. Dieu, dans ces cas, comme Joseph, eh bien, il faut accepter que ça rempire et se rappeler les promesses de Dieu et que les bénédictions vont venir en son temps. Il faut marcher par la foi parce que les souffrances que nous vivons font partie d'un plan plus grand que Dieu. Rappelons-nous que Dieu a abandonné son propre fils sur la croix qui était sans péché, afin que des personnes pécheurs comme moi et comme vous soient réconciliées et deviennent enfants de Dieu. Un passage que j'aime beaucoup et qui vaut la peine d'être appris par cœur, c'est le Proverbe chapitre 3, les versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, tu nous as démontré par ta parole, mais aussi par ton intervention dans nos vies, que tu es un Dieu qui s'intéresse au sort de l'être humain, que tu es prêt à payer le prix en envoyant ton seul Fils unique mourir sur la croix, afin que ceux qui mettent leur confiance en toi, ceux qui croient, puissent hériter la vie éternelle. Seigneur, les souffrances continuent. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et je dirais presque tous les disciples au premier siècle ont vécu la persécution. Mais tu les avais choisis pour étendre ton évangile à travers la terre. Merci, Seigneur Dieu, parce que même dans ma petite vie ici, dans ce qui me semble des gros problèmes que je vis, peut-être des problèmes de santé comme un Jacques Grenier, peut-être un décès comme la famille d'André Constant, Marie-Michel, son épouse. Tu es là et tu prends soin. Seigneur, tu ne nous demandes pas de comprendre, tu nous demandes de mettre notre confiance en toi et de le manifester par notre obéissance à ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce que tu nous donnes, qui nous permet de marcher par la foi. Amen.